Bonsoir. Elle était l'un des visages de la nouvelle vague, l'égérie de Jean-Luc Godard. Elle avait chanté avec Gainsbourg. L'actrice Anna Karina, morte hier à 79 ans, a aussi marqué de jeunes artistes qui lui rendent hommage. Le débat sur les retraites parasitées par l'affaire Delevoye, le haut commissaire aux retraites a rajouté 10 mandats dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence. Le voilà disqualifié pour l'opposition. La majorité reconnaît une erreur qui ne mérite pas sanction. Sur le front des grèves, la journée de demain sera de nouveau très difficile sur les réseaux SNCF et RATP. Dans ce journal également, une troisième victime des intempéries dans le sud-ouest, un homme de 40 ans, retrouvé mort dans sa voiture dans les Landes. 4 départements sont toujours en vigilance orange aux inondations. Demain, peu ou pas de pluie, sauf du Languedoc jusqu'au Massif central. En sport, le PSG champion d'automne, qui se déplace à Saint-Étienne. Lyon, qui accueille Rennes, peut se rapprocher du podium de la Ligue 1. Toulouse, le Racing est clairement tout près d'une qualification en quart de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Et puis Alexis Pinturault qui renoue avec la victoire en slalom, premier à Val d'Isère ce matin avec plus d'une minute 47 secondes d'avance. C'est énorme en ski. Le journal des sports dans un instant avec Vincent Pellegrini.
France Inter.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. C'est sa réplique culte, celle dont tous les cinéphiles se souviennent, réplique du film Pierrot le Fou, dont elle partageait l'affiche avec Jean-Paul Belmondo. Anna Karina, morte hier d'un cancer, avait 79 ans. Elle avait été l'égérie de Jean-Luc Godard, dont elle fut un temps la compagne. Également chanteuse avec Gainsbourg, une personnalité qui a laissé sa trace aussi dans la jeune génération, Alexandra Hacoun.
Qu'est-ce que je peux faire?
Et c'est le chanteur Philippe Catherine qui, le premier en 2000, va aller à la rencontre de l'ex-égérie des années 60. Un album au titre qui sonne comme une évidence, une histoire d'amour. Et ce titre clin d'œil, bien sûr, à l'une des répliques cultes de Pierrot le Fou.
De Vincent Minnelli.
Jamais repu d'aventure artistique, Anna Karina se lance en 2013 dans l'adaptation de La Petite Sirène d'Andersen en conte musical et va chercher Jeanne Chéral pour interpréter Ariel.
Petit prince venu de la terre.
On avait mangé ensemble un dimanche après-midi. Elle nous avait fait écouter les chansons comme ça, des maquettes en guitare-voix.
Je te trouverai un jour.
Pour moi, c'est une muse qui a dépassé son statut de muse en devenant elle-même créatrice. Et ça m'impressionnait vachement. J'ai adoré, par exemple, La Religieuse de Rivette. Enfin, j'avais évidemment tout ça en tête, quoi. Et j'avais aussi vachement la chanson Sous le soleil exactement. Enfin, la façon dont elle la chante. Il y a une animalité dans sa façon de poser sa voix. Et justement, c'est comme si elle la posait pas. Et moi, ça me touche énormément, un tel lâcher prise chez une interprète.
Et jusqu'à la fin, elle aura cette envie de partage des générations. Il y a à peine 3 mois, Anna Karina était à Château-Vallon pour voir l'adaptation théâtrale de Vivre sa vie de Godard par Charles Berling, un moment d'intense émotion.
Et oui, tout le monde pleurait, bien sûr, parce que c'était pour elle voir renaître quelque chose qui a été extrêmement important. Mais elle le faisait sans nostalgie. Elle avait un œil d'une gentillesse absolue. Je pense que c'est des femmes qui ont tracé un sillon sur le féminisme formidable, même sans en avoir l'air. Pour moi, c'est des femmes qui nous apprennent la liberté. Je l'aimais, je ne l'adorais pas. Je l'aimais, quoi, depuis toujours.
Voilà la vie et l'œuvre d'Anna Karina. À retrouver bien sûr sur franceinter.fr. À réentendre également dans une émission spéciale animée par Laurent Delmas ce soir sur France Inter de 22h à minuit, avec notamment des rediffusions des émissions Boomerang et Éclectique dont elle avait été l'invitée. C'est pas moi, c'est l'autre. Sur le front des grèves, la CGT répond ce dimanche au Premier ministre à propos des fêtes de Noël. Que chacun prenne ses responsabilités, a dit Édouard Philippe au Parisien dimanche. Si le gouvernement retire son projet, tout se passera bien, répond ce soir Philippe Martinez pour la CGT. Sinon, dit-il, les grévistes décideront de ce qu'ils ont à faire jeudi ou vendredi. C'est ce qui s'appelle un dialogue de sourds, dont on ne sortira pas, quoi qu'il arrive, avant le milieu de la semaine, puisqu'après demain, mardi, sera jour de mobilisation générale. On va y revenir. Ce dimanche, c'est le cas Delevoye qui a pris encore un peu plus d'ampleur à travers sa nouvelle déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Déclaration dans laquelle apparaissent 10 mandats supplémentaires qui avaient donc été oubliés dans la déclaration précédente. Des activités bénévoles certes, mais dont l'omission fait naître la suspicion. Karine Bécard, on sent le gouvernement et ses soutiens plutôt gênés aux entournures.
Oui, il est forcément de plus en plus difficile de défendre le haut commissaire aux retraites. Ces oublis, ces manquements ont fini par se
multiplié. Résultat, Jean-Paul Delevoye a dû renvoyer une nouvelle déclaration d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc pour les ministres, quand ils doivent le défendre, c'est évidemment compliqué. Et surtout quand on leur demande, comme à Jean-Michel Blanquer ce midi sur LCI, si Jean-Paul Delevoye pourra effectivement porter cette réforme devant le Parlement, la réponse du ministre de l'Éducation nationale.
Il y a Agnès Buzyn, il a l'ensemble du gouvernement, le Premier ministre. C'est un travail collectif, vous le savez bien. Je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser totalement sur ce point au moment où on a un sujet d'une telle énormité.
Maintenant, dans le camp d'en face, l'opposition en a bien sûr profité en présentant toute la journée Jean-Paul Delevoye comme étant désormais sérieusement disqualifié. Le communiste Yann Brossat estime donc qu'il ne peut que démissionner.
Ces mêmes gens nous expliquent matin, midi et soir que les fonctionnaires, que les infirmières, que les cheminots, que les enseignants sont des privilégiés. Et dans le même temps, ils se permettent de tels comportements. Je pense qu'il y a quand même de très sérieuses questions à se poser. Donc je pense qu'évidemment, Jean-Paul Delevoye ne peut pas rester en poste.
Alors que va-t-il se passer? Certes, ce dimanche, le Premier ministre Édouard Philippe a réitéré à Jean-Paul Delevoye sa confiance. Mais la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a prévu de se réunir mercredi pour décider de peut-être saisir la justice. Si c'est le cas, garder au sein du gouvernement Jean-Paul Delevoye deviendra extrêmement délicat.
Karine Bécard, une affaire Delevoye qui vient parasiter le débat de fond sur les retraites et sur cet âge d'équilibre annoncé par le Premier ministre. Une mesure qu'il doit accepter de retirer un point, c'est tout, disait ce matin dans le JDD le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. La CFDT et les syndicats réformistes qui seront eux aussi dans l'action mardi, qui devrait être un mardi noir, plus noir encore que le précédent. En attendant, la grève se poursuit dans les transports et demain matin déjà sera tout aussi difficile que les jours précédents. Julie Pietri sur les réseaux SNCF et RATP.
Pour les trains, pas vraiment d'amélioration en vue. Demain sont annoncés partant un TGV sur 3, 4 trains régionaux sur 10. En région parisienne, cela reste également très perturbé avec des trains de banlieue, RER A et B qui fonctionnent seulement aux heures de pointe et très partiellement. Un trajet sur 2 ou un trajet sur 3 assuré. Pour les transiliens, ce sera un train sur 4. Les métros, maintenant, qui traversent la capitale de part en part, 8 lignes resteront fermées demain. Seule la 1 et la 14 fonctionneront normalement avec un risque encore de saturation aux heures de pointe, prévient ce soir la RATP. On devrait par ailleurs connaître mardi les prévisions de la SNCF pour le week-end prochain, c'est-à-dire le week-end de départ pour les vacances de Noël. Quel train maintenu, quel train supprimé partout en France. Une cadre de la SNCF espérait ce week-end assurer au moins la moitié du trafic prévu.
Dans ce débat sur la réforme des retraites, on prend souvent l'exemple de la Suède, passée depuis 2001 au système par points. Comparaison n'est pas raison, mais elle est toujours intéressante. Alors ce qu'on a constaté en Suède, c'est qu'effectivement le système a trouvé son équilibre financier, mais que le niveau des retraites a baissé. La retraite universelle qui devait atteindre les 60% du dernier salaire n'a toujours pas dépassé les 50% à Stockholm. Frédéric Faux.
Cette série télévisée suédoise intitulée Enkelstöten raconte les aventures de deux mamies décidées à dévaliser une banque pour assurer leurs vieux jours. Elle illustre bien les sentiments que le système de retraite à points inspire aux Suédois. Depuis 2001, en Suède, le niveau de la retraite dépend des cotisations de chacun. Le principe est simple. Le total des cotisations versées est divisé par l'espérance de vie que l'on estime au moment où l'on arrête de travailler. Comme un compte en banque, le capital accumulé produit des intérêts qui reflètent l'évolution des salaires. C'est pourquoi les retraites peuvent baisser, comme ce fut le cas en 2010, 2011 et 2014. Comparer les systèmes de retraite de deux pays est un exercice difficile. En Suède, par exemple, 90% des travailleurs cotisent aussi pour une retraite professionnelle au sein de leur entreprise. Mais pour Anna Eriksson, de l'association de retraités SPF, tous les systèmes à points présentent une philosophie commune.
Le nouveau système suédois transfère les risques liés au changement économique ou démographique sur les individus. Si vous vivez plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps et si vous ne le faites pas, votre pension sera plus basse.
Au-delà de ces points communs, le système suédois a été mis en place dans un contexte très différent. Les négociations ont pris 10 ans. Et surtout, à l'époque, la Suède n'avait pas de régimes spéciaux. Stockholm, Frédéric Faux, France Inter.
Au chapitre social également, 660 médecins hospitaliers qui menacent de démissionner, ils l'ont écrit dans le JDD. Si le gouvernement n'ouvre pas de réelles négociations, ils rendront leur tablier, ou plutôt leur blouse. Les 300 millions supplémentaires annoncés par le gouvernement pour l'hôpital public, c'est pour eux très insuffisant, car l'hôpital se meurt, disent-ils. Les 660 signataires de la tribune, de tout service et de toute région, appellent la ministre Agnès Buzyn à ouvrir le dialogue ou même à les rejoindre. Quand Jean-Luc Mélenchon fâche le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, dénonce ce soir les propos inadmissibles du leader de la France insoumise, lequel avait dénoncé en commentant les élections britanniques les oukases arrogants des communautaristes du CRIF. Pour lui, Jean-Luc Mélenchon, la défaite du travailliste Jeremy Corbyn vient en partie des accusations d'antisémitisme qui lui ont été portées notamment par le grand rabbin d'Angleterre. Ces mêmes accusations qui se reportent aujourd'hui sur le député de Marseille, Francis Khalifa, le président du CRIF, au téléphone de Julien Pascalini.
Ce sont des propos inadmissibles d'un homme politique que je considère à la dérive et qui est surtout avide de visibilité médiatique. Donc on voit bien que là, il s'est installé avec ses propos dans un véritable délire complotiste où il fait l'amalgame entre le CRIF et les élections britanniques. On se demande ce que ça vient faire là. C'est inquiétant parce que ces propos relèvent de la pire tradition antisémite, celle qui est inspirée justement par la rhétorique de Vichy, du complot juif et du pouvoir occulte des juifs. Tout ça, c'est nauséabond.
Voilà, plusieurs ministres, dont Christophe Castaner, ont également dénoncé des propos choquants et inappropriés, s'attirant la réplique de l'intéressé sur Twitter. Jean-Luc Mélenchon, qui voit en Castaner l'éborgneur, celui qui sème la haine par la violence qu'il organise. Une occasion ratée à Madrid pour les négociateurs de la COP25 sur le climat, et c'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui le dit. Il y a de quoi être déçu du résultat. Le texte final adopté à midi appelle à des actions urgentes pour réduire l'écart entre les engagements et les objectifs, ce qui revient à ne rien dire, comme l'ont d'ailleurs souligné toutes les associations et ONG, évidemment déçues, et qui reportent maintenant tous leurs espoirs sur la COP26 l'année prochaine à Glasgow. D'ici là, tous les pays devront présenter une version révisée de leur plan de réduction du CO2. À l'étranger également, la constitution d'un arc terroriste du Sahel jusqu'au Proche-Orient, c'est la crainte exprimée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ce midi sur France Inter. La menace est là, permanente, dit-il, et les violences se propagent. Le 10 décembre, à la frontière entre le Mali et le Niger, ce sont 71 soldats nigériens qui avaient été tués par les djihadistes, face auxquels la force française Barkhane paraît bien insuffisante, d'où l'urgence pour les pays du G5 Sahel de renforcer leur présence militaire, ce qu'Emmanuel Macron devait d'ailleurs leur rappeler cette semaine dans un sommet convoqué à Pau et qui a été reporté en janvier. Mais les 5 chefs d'État des pays concernés se sont réunis ce soir à Niamey, Claude Guibal, pour la forme essentiellement.
En un mois, près de 200 soldats tués au Niger, au Mali, au Burkina Faso dans des attaques djihadistes. La menace s'aggrave sur les pays sahéliens, a convenu le président du Niger, Mahamadou Issoufou, en ouvrant ce mini-sommet de Niamey. Même constat évidemment que celui fait à Paris, comme le répétait ce midi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur France Inter.
Il y a aussi les risques d'extension de l'action de ces groupes terroristes vers le Tchad, vers le Nigeria. Il y a aussi les groupes terroristes qui fonctionnent en Libye. Tout cela fait un arc des groupes terroristes qui peuvent remonter jusqu'au Levant.
Dans les pays du G5 Sahel, la grogne contre la présence de l'armée française ne cesse de monter. Et cela sur fond de campagne anti-impérialiste, largement relayée par les réseaux sociaux qui soupçonnent la France d'entretenir le chaos pour profiter de la situation. L'invitation très sèche d'Emmanuel Macron à ses homologues sahéliens à clarifier leur position lors d'un sommet initialement prévu cette semaine à Pau puis reporté a été très froidement reçue. D'où cette rencontre aujourd'hui à Niamey entre sahéliens pour se concerter. Nous avons besoin de davantage d'alliés, a martelé Mahamadou Issoufou. Phrase sibylline derrière laquelle certains voient un appel du pied vers la Russie, très désireuse d'étendre son influence en Afrique, comme elle l'a fait au Proche-Orient avec la Syrie.
L'extradition de l'ex-policier argentin Mario Sandoval, c'est la fin d'un feuilleton qui durait depuis 8 ans. Mais après l'épuisement de ses derniers recours, le policier qui s'était réfugié en France en 1985 devrait être embarqué ce soir sur un vol Air France pour Buenos Aires. Mario Sandoval, arrêté mercredi à son domicile de Nogent-sur-Marne, près de Paris, doit répondre dans son pays de la disparition d'un étudiant en 1976 pendant la dictature. En France, un nouveau bilan des intempéries dans le sud-ouest où l'homme qui avait été porté disparu dans les Landes a été retrouvé mort dans sa voiture. Sa voiture tombait en contrebas dans une zone inondée près de l'Adour. Elle était complètement sous l'eau, ce qui porte à 3 le nombre des victimes. 4 départements du sud-ouest sont toujours en vigilance orange inondation. La météo, ce sera dans un instant. D'abord les routes de ce dimanche soir, veille de grève avec vous, Kevin Dufraîche, des difficultés en Île-de-France.
Et oui, les routes toujours très saturées. On est monté jusqu'à 225 km de bouchons. Pour vous donner une idée, le dimanche soir, on est plutôt au maximum autour de 150 km de bouchons en moyenne. Et c'est bien sûr l'effet de la grève dans les transports conjugué au traditionnel retour de week-end vers Paris. C'est chargé ce soir, particulièrement sur le périphérique. Il faut par exemple plus d'une demi-heure pour relier Porte de Bagnolet à l'est à la Porte de la Chapelle au nord de la capitale. D'ordinaire, il faut 10 minutes et ça ne sera pas mieux demain en raison de la poursuite du mouvement dans les transports en commun, le mouvement de grève. Vous en avez parlé dans le journal. Il y aura donc beaucoup de bouchons demain matin en région parisienne.
Kevin Dufraîche au PC Mobilité de Radio France. Le temps.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
Demain, la majeure partie du pays sera épargnée par la pluie, sauf du nord de la Loire à la frontière belge, où la journée sera généralement maussade, avec des pluies plus marquées au niveau des régions littorales. L'autre zone, où le temps sera pluvieux, mais sans excès, va se situer entre le Languedoc, le Roussillon et le Massif central. On notera un vent très marqué sur un large quart sud-est avec des rafales proches de 100 km à l'heure de secteur sud dans le quadrilatère côte méditerranéenne, Val-de-Saône, Massif central et le tiers est de la chaîne des Pyrénées. Sur le reste du pays, ce sont souvent des nuages d'altitude qui voileront le soleil. Les températures au-dessus des normes seront comprises entre 5 et 10 degrés la nuit et entre 11 et 19 degrés du nord au sud l'après-midi. Concernant la vigilance crue, maintien de certains cours d'eau du quart sud-ouest en orange.
19h, bientôt 17, on passe au sport. Le journal des sports qui nous est présenté ce soir par Vincent Pellegrini. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Yves.
Et vous commencez par la 18e journée de Ligue 1 de football, l'Olympique Lyonnais qui recevait à l'instant le Stade Rennais dans un duel d'Européens.
Lyon qualifié cette semaine pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Rennes éliminé de la Ligue Europa, mais ce sont les Rennais qui se sont imposés. Bonsoir Christophe Vincent.
Bonsoir Vincent.
En direct du Groupama Stadium, et c'est une victoire assez logique pour le Stade Rennais 1-0.
Oui, et la bronca du Groupama Stadium pour cette 7e défaite des Gones en championnat a retenti à la fin de ce match. Les Lyonnais ont salué le virage nord du rond central sans s'approcher. Et en réponse, le COP les a copieusement sifflés. Logique, vu la prestation de ces Lyonnais incapables d'effectuer une prestation convenable 5 jours après avoir arraché leur qualification en 8e de finale de la Champions League. L'OL n'a jamais été en mesure de marquer, hormis peut-être à la 84e minute quand le gardien Mendy a repousser les tentatives de Cacré et Traoré. A l'inverse, 3 jours après avoir battu la Lazio de Rome pour du beurre, Rennes a récidivé. Les Bretons ont su profiter des espaces laissés par ces Lyonnais et ils ont arraché la victoire à la 89e minute grâce à Camavinga. Les Rennais du coup grimpent à la 4e place du classement provisoire et les Lyonnais replongent dans le doute.
Alors, vous le disiez Christophe, ambiance assez tendue entre les joueurs de l'OL et leur public. On sait qu'il y a eu des incidents mardi soir à l'occasion du match contre Leipzig. Ça a été de nouveau tendu ce soir.
Oui, quand même. L'hommage rendu avant la rencontre à Bernard Lacombe a un petit peu détourné l'attention des supporters sur la légende du club qui quittera l'OL à la fin du mois après 50 ans de présence. Et mis à part une banderole furtive, on va le dire assez obscène, à l'adresse de Marcello, le Brésilien qui est un petit peu la cible de ses supporters et qui a généré la bagarre, l'incident qu'il y a eu, enfin le début d'incident qu'il y a eu mardi soir après le match de Leipzig entre le capitaine Memphis Depay et une partie de ses supporters. Eh bien, on n'a pas eu ce soir de rebondissement et simplement les supporters, on l'a dit, ont salué de loin et se sont dépêchés de rentrer au vestiaire. Et les supporters se sont contentés de siffler, sont repartis dépités. Visiblement, on n'en restera pas là car la crise, du moins dans ses rapports supporters-joueurs, n'est pas encore réglée.
Merci Christophe Vincent, direct de Lyon. Vous le disiez, en marge de cette rencontre, un hommage a été rendu à cette figure historique de l'Olympique lyonnais. Bernard Lacombe, qui a 67 ans, va donc prendre sa retraite au sein de l'OL. Bernard Lacombe a occupé de nombreux postes, joueur, entraîneur, directeur sportif, conseiller du président Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, Bernard Lacombe estime que c'est le moment de tirer sa révérence.
J'ai mûrement réfléchi parce que ça fait quand même presque 40 ans que j'ai arrêté le foot. J'ai arrêté en 87 et on est en 2019. Et comme je dis, il y a 50 ans, C'est quelqu'un qui est venu me le dire. Je me rappelais du match, mais je ne savais pas qu'il avait 50 ans. J'ai joué mon premier match en première division le 7 décembre 1969. Et j'ai eu la chance de marquer mon premier but contre le Restart. Et ça faisait 50 ans, le 7 décembre 2019.
Et ce match-là, apparemment, vous êtes prévenu la veille que vous allez être titulaire, c'est ça, ou vous allez rentrer en jeu?
La veille, je suis arrivé avec ma mobilette au stade, et Mémigno me dit, tu joues. Fleury Dinalo a 42 fièvres, il est malade, et c'est toi qui joues. En plus, moi, j'ai joué ailier gauche, avec le numéro 11, et puis j'ai eu la chance que c'est André Guy, qui était un grand avant-centre de l'équipe de France à l'époque, c'est lui qui m'a fait marquer le deuxième but, où j'ai marqué le premier, je ne sais plus. Mais ça a été un moment extraordinaire.
Les souvenirs de Bernard Lacombe au micro de Cédric Guillou. Cette 18e journée s'achève ce soir avec le déplacement du Paris Saint-Germain à Saint-Étienne. Le PSG assuré du titre de champion d'automne après le nul de l'OM hier à Metz, un partout. Bonsoir Rodolphe Montagnier.
Bonsoir Vincent.
Vous êtes en direct du stade Geoffroy Guichard. Alors entre le PSG, incontestable leader du classement, et une équipe stéphanoise 10e qui plus est affaiblie par plusieurs absences, le combat semble assez inégal ce soir.
Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement un gouffre effectivement entre cette formation parisienne et cette formation stéphanoise. En plus, dans un contexte un petit peu délicat côté forésien, puisqu'on reste sur deux défaites consécutives cette semaine. C'est à la Reims, il y a la semaine dernière, dimanche dernier, très exactement, en Ligue 1, après une autre défaite. C'était à Rennes en déplacement, autre défaite en déplacement, simplement scandée par cette victoire face à Nice. Mais voyons, une semaine un peu délicate, surtout marquée par la défaite du côté de Wolfsburg. Jeudi dernier, c'était en Ligue Europa. Et ça venait terminer une campagne européenne bien médiocre du côté de l'AS Saint-Etienne, éliminée dès sa phase de poule. Et vous le disiez, une AS Saint-Etienne qui en plus doit faire face à de nombreuses blessures. Romain Mouma, le dernier en date, blessé justement jeudi dernier en Allemagne. Mais on peut rajouter Franck Honora, Wabi Kazri, Charles Labi, William Saliba, Yohan Cabaye, sans oublier Timothée Kolozejak qui est suspendu. Vous voyez, vous le disiez donc, une formation stéphanoise qui ne partira pas favorite face à ce Paris Saint-Germain, qui traînera donc son titre de champion d'automne ce soir, avec notamment un joueur, Neymar, qui n'a jamais fouler la pelouse de Geoffroy Guichard dans sa carrière. Ce sera donc sa grande première et on le craint énormément du côté des supporters de l'AS Saint-Etienne.
Merci Rodolphe Montagnier en direct du stade Geoffroy Guichard. Coup d'envoi de ce Saint-Etienne PSG à 21h. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais qui connaîtront demain midi leur adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions. Tirage au sort donc de ces 8e à Nyon en Suisse. Cet après-midi, Strasbourg s'est imposé à Bordeaux 1-0. Bordeaux 7e du classement. Les Strasbourgeois de leur côté remonte à la 14e place. Alexis Pinturault en démonstration aujourd'hui à Val d'Isère. Il s'est imposé dans le slalom de Coupe du Monde. Cela faisait 5 ans que le skieur français n'avait pas remporté un slalom de Coupe du Monde. Lui qui a obtenu la grande majorité de ses succès en géant. Mais aujourd'hui, sur la face de Bellevarde, Alexis Pinturault a été impressionnant. À Val d'Isère pour France Inter, Guillaume Batin.
Alexis Pinturault a écrasé la concurrence dans les deux manches du slalom. 59 centièmes de mieux que le jeune américain Luke Winters dans la première manche. Il enfonce le clou dans la seconde en reléguant les trois poursuivants, Mirreur, Gross et Christoffersen à près d'une seconde et demie. Alexis Pinturault.
Ici, ce qui est assez particulier, c'est que je crois que j'ai rarement gagné en me disant wow, « aujourd'hui, je me suis frisé les moustaches ».
Alexis Pinturault !
Une victoire devant la famille, les amis, avec le champagne, la Marseillaise. Et les larmes de son entraîneur, Fabien Munier.
Forcément, t'es ému quand c'est en géant et tout. Il a un palmarès en géant qui fait qu'on s'y attend un peu. Mais là, en slalom, l'année dernière, on a vu qu'il revenait. Il rate une médaille aux mondiaux pour rien, alors qu'il skie très vite. Et de le faire ici, non, mais c'est beaucoup d'émotions, c'est des belles émotions.
Grâce à cette 25e victoire en Coupe du Monde, Alexis Pinturault repasse en tête du classement général de la Coupe du Monde avec 21 points d'avance sur l'Autrichien Henrik Christoffersen. À Val d'Isère, Guillaume Batin, France Inter.
D'ailleurs, après Val d'Isère, une autre station française, Courchevel, accueillera mardi une épreuve de Coupe du Monde, un géant féminin, avec notamment l'américaine Michaela Schifrin et la française Tessa Worley. La Coupe du Monde de biathlon faisait étape ce week-end à Orfilsen, en Autriche. Le relais français sans Martin Fourcade laissé au repos a terminé troisième d'une course remportée par les grands favoris, les Norvégiens. Victoire norvégienne également dans la poursuite d'âme, enlevée par Tyril Ekhoff. Première française, Justine Breza, quatrième. La quatrième journée de la Coupe d'Europe de rugby, Clermont a préservé ses chances de qualification pour les quarts de finale cet après-midi. Dans un groupe où les Irlandais de l'Ulster sont en tête, les Clermontois n'avaient pas le droit à l'erreur à domicile face aux Anglais de Bath. Ils n'ont pas fait dans la demi-mesure en s'imposant 52-26 face aux Anglais de Bath, en empochant un point de bonus au sang offensif. Dans cette Coupe d'Europe, à l'issue des quatre premières journées, deux autres clubs français sont bien placés pour se qualifier pour les quarts de finale, le Stade Toulousain et le Racing 92. Angers a accueilli ce week-end les championnats de France de natation en petit bassin, avec en vedette Florent Manaudou. Il était de retour en compétition en France pour la première fois depuis qu'il a renoué avec sa carrière de nageur en juin dernier, après 3 ans d'absence. Il a glané à Angers 2 titres en individuel sur 50 mètres nage libre et 50 mètres papillon. Ces championnats de France ont permis de faire le point sur l'état de forme des nageurs tricolores à 7 mois des JO de Tokyo, alors que la natation française avait été au plus bas aux Jeux de Rio en 2016. Alors Jérôme Val, peut-on être un peu plus optimiste ?
Eh bien, en tout cas, ça va mieux hein. Après avoir touché le fond de la piscine. Souvenez-vous, aucune médaille d'or aux Jeux à Rio, une première depuis 16 ans, une toute petite délégation de 9 nageurs seulement aux Mondiaux l'année suivante. Alors face à un tel échec, la direction technique nationale a changé en 2017. Nouvelle manière de fonctionner, nouvelle pratique aussi pour accompagner cette nouvelle génération qui doit assurer la relève. Et ça commence à porter ses fruits, estime Julien Issoulier, le DTN.
On a une natation qui est en train de se diriger vers un bon niveau. Maintenant, la marche reste haute encore. On peut dire qu'on a une natation d'un niveau européen. Il reste à accéder au niveau mondial. Et pour ça, il va falloir du temps.
Mais du temps, hein, cette équipe de France pourrait en manquer. Les Jeux, c'est déjà dans 7 mois. Et avec une telle échéance, le DTN est lucide. La France aura des ambitions modestes.
Nous, on a envie de rassurer la natation. Tokyo, on sait qu'on n'aura pas 50 médailles en natation. Ça, c'est une certitude. Par contre, si on en a 2-3 et que ça permette de tirer les autres et de lancer quelque chose, ça c'est vraiment intéressant pour la suite.
L'expérience des nageurs sortis de leur retraite cette année sera déterminante à l'approche de la compétition. Florent Manaudou, bien sûr, mais aussi Amaury Levaux ou Grégory Mallet, des exemples à suivre.
Pour Florent, c'est vrai qu'il a un charisme qui fait que ça amène les autres. C'est pas lui qui va dire « Allez les gars, on est là pour se taper dans la main », mais mine de rien, par sa présence, par ce qu'il engage et ce qu'il fait, ça laisse de la place aux autres en fait.
Le rendez-vous à ne pas rater. Maintenant, ce sont les championnats de France en avril avec en jeu les qualifications pour les JO. Angers, Jérôme Val, France Inter.
Les Pays-Bas succèdent à la France au palmarès du championnat du monde féminin de handball. Les Néerlandaises ont battu l'Espagne sur le fil hein, cet après-midi 29-28. Premier titre mondial pour les handballeuses néerlandaises qui ne faisaient pas partie des favorites de ce mondial. À la tête de cette équipe, un Français, Emmanuel Maillonnade, qui est également l'entraîneur de l'équipe de Metz, champion de France en titre, Jean-Pierre Blimont.
Emmanuel Maillonnade vient de réaliser un coup de maître embauché par la fédération néerlandaise en septembre dernier. 3 mois plus tard, il conduit les Pays-Bas au titre mondial. Et pourtant, ce championnat a débuté par une défaite. Emmanuel Maillonnade.
Quand on perd le premier match, le soir, je rentre en chambre et je me dis donc c'était pas simple. On a essayé de faire avancer un tout petit peu la structure, un tout petit peu en bout de course avec l'arrêt de 2 stars qui n'avaient pas été remplacées. Donc je me dis on va mettre des jeunes, mais bon, je m'étais dit waouh, ma vie, cette affaire-là, elle va pas durer longtemps, quoi. C'est beau.
Jour de gloire pour Emmanuel Maillonnade, dit Manu, qui est aussi depuis 4 ans l'entraîneur de Metz. Avec Brest, c'est l'une des 2 équipes principales du hand féminin en France.
C'est vraiment un métier différent. On entraîne presque jamais, quoi. Je fais de la vidéo, du management et des discussions et de la tactique et des trucs comme ça. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir plus de travail qu'à Metz, quoi. Voilà, sauf qu'après, effectivement, j'essaie d'être un tout petit peu plus succinct. Donc ça a été très, très, très complexe.
Avec cet exploit, à seulement 36 ans, Emmanuel Maillonnade doit maintenant mener les Néerlandaises vers une autre conquête, celle du titre olympique. Avec ce titre mondial, les Pays-Bas sont directement qualifiés pour les JO de Tokyo.
Alors, on rappelle que très décevante dans ce championnat du monde, les Françaises n'ont terminé qu'à la 13e place, mais elles aussi disputeront les JO de Tokyo. Cette menace du président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, alors que l'athlétisme tricolore a été sévèrement secoué ces derniers mois par plusieurs affaires de dopage, il veut que les athlètes qui ont été suspendus, ne serait-ce qu'une fois pour des pratiques dopantes, ne puissent plus jamais être alignés en équipe de France. André Giraud.
On a toujours, toujours combattu le dopage depuis 20 ans et on continuera à le battre, même si aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des tricheurs qui circulent. Donc il arrive un moment que l'athlète qui triche, il est parfaitement au courant de ce qu'il fait. Donc ça, c'est aussi une atteinte à l'image de notre sport. Et il faut à un moment donné que, bien, on, on, on ait des mesures encore plus fortes pour dissuader les tricheurs. Depuis le 1er mars, il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage de prononcer les sanctions disciplinaires. Les fédérations n'ont plus le droit de sanctionner des athlètes qui sont contrôlés positifs ou qui enfreignent les règles. Par contre, l'accès à l'équipe de France, qui dépend de la fédération, là, nous avons parfaitement le droit de l'appliquer.
Le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, avec Clément Comte.